Bonjour. Le but de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est sur une pensée qui est à développer pour nous aider à vraiment faire le point sur notre état réel de notre cœur, pour faire le point puis s'arrêter pour réfléchir sur quoi je me base pour me donner une confiance, une assurance, pour me dire que je suis vraiment sauvé. Ça peut-tu arriver que je me sente proche de Dieu, mais qu'en fait, nous le sommes pas? Est-ce qu'il y a des points de repère? Est-ce qu'il y a des points dans la parole de Dieu qu'on peut vérifier pour savoir, est-ce que la Bible nous parlera de certaines situations qui remettent en question le cheminement des gens face à Dieu? Oui, il y en a des questions, oui, il y en a des raisonnements, oui, il y en a des points qu'on peut s'arrêter puis réfléchir dans le but, en fin de compte, dans le but qu'on bâtisse notre vie sur la vérité, sur les vraies choses, qu'on se retrouve pas à la fin de notre vie, puis que nous mourons pensant qu'on était sauvé, qu'on était pour entrer au ciel, puis on se retrouve sur le mauvais côté, l'autre bord, qu'on se retrouve pas avec Dieu, même si on se croyait avec Dieu, qu'on se retrouve pas sur le bon côté, puis que là, on regrette de ne pas avoir fait le point, puis d'avoir pris les bonnes décisions pour nous avoir amenés à être vraiment dans le bon chemin. Est-ce qu'en fin de compte, que n'importe quel chemin amène à Dieu? C'est là qu'est la question. Puis est-ce que je peux suivre n'importe quel Dieu, puis que je vais me rendre quand même sur le bon bord? Là-dedans, pour savoir vraiment si nous sommes sur le chemin du ciel, il est important d'aller lire la parole de Dieu, la Bible, pour trouver les réponses à nos questions. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5, ça nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » L'apôtre Paul, quand il a écrit ça, il écrivait à des chrétiens, à des gens qui étaient sûrs d'être sauvés, à des gens qui étaient déjà comme assis dans une église en train de pratiquer leur vie chrétienne, puis entre parenthèses, pratiquer la vie chrétienne, est-ce qu'il y a des points de référence pour marquer, es-tu vraiment en train de vivre la vraie foi comme c'est la parole de Dieu me l'enseigne? Est-il possible que notre religion, ou le lieu de rencontre qu'on se donne pour pratiquer notre religion, ou notre mode de vie religieux, que notre religion nous donnerait satisfaction au point qu'on cherche pas la vérité, qu'on soit tellement complaisant ou tellement satisfait d'être dans telle église parce que c'est une grosse église qui a beaucoup d'argent, une grosse église qui a de l'air prospère, une grosse église qui a de l'air, oh ça a de l'air vrai, les gens sont habillés en avant avec des habillements de luxe ou des habillements prestigieux, des habillements avec des larges franges, puis des comme les juifs de l'époque de Jésus, où il avait été critiqué par Jésus lui-même, que les pharisiens aimaient les larges franges après le vêtement, puis être habillé de manière à attirer le regard. Est-ce que cela nous satisfait au point qu'on recherche plus à connaître la vérité, qu'on se remet pas en question pour savoir si vraiment je suis dans le bon chemin? C'est-il possible aussi que je mette ma foi dans des paroles d'inspiration humaine, que je me nourris de livres, puis c'est des livres qui vont comme nourrir mon intellect, nourrir ma soif de connaissance, puis que ça me donne une satisfaction au point que je me remette pas en question sur l'inspiration que je reçois, puis que même si je me pose pas la question savoir est-ce Dieu qui est en train de dire ça, ou c'est des paroles humaines? Parce que des livres sur la terre, des livres sur tous les sujets religieux, il y en a des milliers, puis des milliers de livres. Puis là, l'ensemble des livres, est-ce que c'est tout de la source, de la provenance de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tous ces livres-là, c'est la révélation de Dieu? Est-ce que là-dedans, il y aura des inspirations d'hommes, puis des enseignements tournés par des pensées humaines, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu? C'est ça qui est le point. Il faut se poser la question, est-ce que on a mis notre foi dans des paroles d'inspiration humaine, puis que notre confiance, en fin de compte, sera reposée sur du néant, du vide, sur aucune inspiration biblique qui ferait que je suis en train de croire pour rien? Est-il possible où est-ce que je mette mon espérance dans un faux Dieu? que toute notre vie, on soit sans aucune réponse. Parce que, si on y va logiquement parlant, ça se peut pas que tous les dieux que sur la terre soient le créateur de l'univers. C'est impossible. Il y a tellement de dieux expliqués de façon différente, de présentés de manière différente, qu'il n'y a même plus rapport que c'est pas le même dieu, des dieux qui sont pas des dieux, puis des demi-dieux, puis des dieux, comme on le sait, que c'est de la mythologie, c'est des légendes, c'est des faits racontés, mais il y a des gens quand même qui mettent leur foi dans toutes ces choses-là. Est-il possible que nous sommes en train de mettre notre foi ou notre espérance dans un faux dieu qui n'est pas réellement le dieu révélé dans la parole de Dieu, puis qu'en fin de compte, on n'a jamais de preuve réelle que nos avances ou nos réflexions puis nos choses qu'on vit avec ce faux dieu-là, qu'en réalité, on n'a aucune réponse de lui, on n'est pas exaucé dans aucune prière, qu'il intervient jamais dans notre vie, puis là, on essaye de se faire croire qu'il est en train d'agir, comme par exemple, s'il y en a un qui prend son verre, puis son verre de vitre, puis il y a de l'eau dedans, puis là, il dit, ça, c'est mon Dieu, puis on commence à prier ça, puis on met notre confiance là-dedans, puis là, on s'attend que ce verre-là nous réponde. Puis en réalité, on le sait que c'est juste un objet, un verre, ça n'a pas de vie, puis ça n'a pas de pensée, puis ça n'a pas de parole, puis ça peut pas intervenir. Puis là, on met notre foi dans un objet quelconque, puis là, on pense que on va être exaucé ou qu'on pense qu'on est sous une protection spécifique à cause qu'on a mis notre foi en un objet. Puis que là, on est en train de croire que de mettre notre foi en quelque chose, peu importe si c'est une vraie chose, que notre foi elle aurait une valeur ou que notre foi obtiendrait quelque chose. Parce que c'est la foi qui ferait les choses. Mais en réalité, c'est pas la foi qui va faire que les choses s'accomplissent. C'est de mettre notre foi dans les choses promises par Dieu qui viennent du vrai Dieu. Parce que ce Dieu-là veut accomplir les choses. Mais ce Dieu-là répond pas lorsqu'on est en train de parler à un verre. Mais c'est là qu'est l'importance de s'examiner soi-même pour savoir si on est dans la vraie foi, si on est vraiment dans la foi biblique, dans la foi révélée par Dieu. Y est-il possible qu'on vérifie pas la source de notre foi? Est-il possible que des gens qui croient tout comme du cash, puis vérifient pas dans la parole de Dieu pour voir si vraiment leur foi est fondée sur quelque chose qui est biblique, qui est une révélation d'un verset décrit dans la Bible, puis là, on se met à croire à toutes les déclarations qu'on entend, puis là, on est rendu qu'on croit à tout ce qui peut être dit, même si c'est des choses farfelues ou si c'est des choses erronées. Il est important de se questionner. Y est-il possible qu'on marche par nos émotions plutôt que de baser notre vie sur la parole de Dieu? Parce que je sais qu'il y a des églises qui mettent l'emphase sur l'émotion, sur les sensations, sur le sensationnalisme, c'est comme s'il y aurait un spectacle en avant, puis ça a l'air bien intéressant, le gars quand il parle, il fait des sauts de 6 pieds de haut, puis il fait des pirouettes, puis là il y a une belle manière pour présenter les choses, puis avec un langage articulé, puis ça a de l'air réel, ça a de l'air vrai, ça a de l'air bien, parce que le gars est bien habillé, puis qu'il prononce bien son discours, puis qu'au bout de la ligne, le gars, il est pas basé pantoute sur la parole de Dieu. C'est là qu'il faut se poser des questions, faut s'examiner pour savoir si on est réellement dans la foi. Y est-il possible qu'on ait en nous une fausse assurance d'être sauvé? Qu'en fin de compte, qu'on a comme une confiance, une assurance, qu'on peut être même sincère dans notre cœur, qu'on croit la bonne chose, mais en réalité qu'on est sincèrement dans l'erreur. Est-il possible que Dieu n'est pas d'accord du tout avec notre foi, notre conviction, ou notre assurance, ou notre manière de penser, notre manière de voir les choses, que ça n'a rien de biblique? Dans Luc, au chapitre 8, le verset 18, Jésus est en train de parler à des gens, il est en train de leur dire, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera celui qui l'a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Voyez-vous, il est en train de nous dire, Jésus, prenez garde de la manière que vous écoutez. Parce que lorsqu'on écoute, est-ce qu'on a pris garde ce à quoi on est en train d'écouter? Est-ce que je suis en train d'écouter des choses qui sont pas vraies? Est-ce que je suis en train d'écouter des choses qui proviennent pas de la parole de Dieu? Est-ce que je suis en train d'écouter des choses qui sont pas inspirées du tout par le Saint-Esprit et que ça semble beau, puis c'est des choses qui sont là pour me tromper? Jésus il dit, prenez garde à la manière que vous écoutez, parce qu'on va donner à celui qu'il a. Celui qu'il a va obtenir. Celui qui a les vraies choses va obtenir, mais celui qui n'a pas les vraies choses, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Il va arriver un jour où ce que l'illusion va tomber, le rideau va se lever, la lumière va paraître, et ce qui est ténébreux, ce qui est faux, et ce qui est pas biblique, va disparaître. Les gens qui ont ramassé toute leur vie, puis ont bâti leur vie, toute leur vie sur des choses qui sont pas basées sur la parole de Dieu, Jésus-Christ va mettre les choses en lumière, puis les gens vont se faire enlever ce qu'ils croient avoir. Dieu va enlever toute illusion, Dieu va enlever toute fausse espérance, Dieu va balayer ceux qui sont pas basés sur le roc, la parole de Dieu. Il y a des exemples qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, justement pour nous faire réfléchir sur cette idée-là, que des gens qui vivent une vie religieuse très active, puis que ces gens-là, ils sont pas réellement en train de faire ce que Dieu s'attend. La Bible nous parle de personnes croyantes qui attendent le retour de Jésus sans réaliser leur état spirituel devant Dieu. Parce qu'on peut se penser chrétien, puis qu'il ne même pas vivre en fonction de ce que la parole de Dieu déclare comme fruit d'un vrai chrétien. Alors regardez bien cette parole-là venant de Jésus lui-même, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », là on voit que ça s'adresse à des gens qui parlent à Dieu et qui disent « Seigneur », qui s'adressent à Dieu, ils ne s'adressent pas à une statue, là. Ils ne s'adressent pas à des photos, ils ne s'adressent pas à des faux dieux. Ils s'adressent au Seigneur. Ils sont en train de parler au Seigneur. Là, Jésus, je vais recommencer, il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il est en train de nous dire que c'est pas tout le monde qui prie Dieu qui vont être sauvés. C'est quelque chose, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier Dieu puis qui appellent Dieu Seigneur, puis ils rentreront pas au ciel. Ils seront pas sauvés. Ils sont tous en train de croire d'être sauvés, mais qu'ils ne sont pas, puis ils vont se faire enlever ce qu'ils ont reçu. Mais c'est pas, ils ne se font pas enlever ce qu'ils ont reçu, ils vont se faire enlever ce qu'ils croient avoir. C'est pas pareil. C'est qu'ils s'imaginent d'être dans le bon chemin, parce qu'ils croient des personnes en avant qui leur enseignent des choses, leur enseignent la religion, puis que les choses sont pas basées sur la parole de Dieu. Fait qu'en fin de compte, ils peuvent se dire, toutes les religions, ça mène à la même chose. On est tous sur le chemin du ciel. Dieu est trop bon, il va pardonner tout le monde. Non, ça nous dit, Jésus lui-même nous dit, dans ce verset-là, qu'ils rentreront pas tous, même si tous sont, ces gens-là sont en train de prier, ils rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, c'est pas tout le monde qui va être sauvé. Jésus est en train de dire que c'est pas tout le monde qui va être sauvé. C'est pas ta religion qui va te sauver. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté du Père qui va être sauvé. Puis il y en a dans leur expérience religieuse qui ont vécu toutes sortes de choses extraordinaires. Matthieu 7, là on va lire le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » C'était des prophètes ces gens-là, c'était des gens qui étaient inspirés d'un esprit, puis ils se pensaient inspirés par le Saint-Esprit. Puis que c'est des gens qui criaient à Dieu, puis qui parlaient par un esprit. Puis là, ils disent, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les gens invoquaient le nom de Jésus. Puis ils chassaient des démons par le nom de Jésus. Puis ils ont prophétisé par le nom de Jésus. Mais quel Jésus? Parce que dans ce verset-là, Jésus leur dit, « Je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Jésus les connaissait pas. Jésus est en train de parler dans ce passage-là qu'il connaissait pas les gens qui étaient en train de lui parler. Les gens étaient en train de parler à un Jésus, puis c'était pas le Jésus de la Bible. Puis là, Jésus leur reproche d'être des ouvriers d'iniquité, des gens qui pratiquent le péché. Sur la terre, il y a des multitudes de personnes qui se disent croire en Jésus. Des multitudes. Mais Jésus, est-ce qu'il les connaît? Est-ce que Jésus va dire « Oui, je te connais? » Ces gens-là n'ont pas de relation avec le vrai Jésus de la Bible. Ils parlent à un Jésus, ils prophétisent par un Jésus, ils font des miracles par un Jésus, mais c'est pas le Jésus de la Bible. Ça veut dire que présentement, il y a d'autres sortes de Jésus qui est annoncé. Il y a d'autres sortes d'évangiles qui sont prêchés, mais pas la seule qui est selon la parole de Dieu, la Bible. Il est important de faire le point parce que le verset 24 nous donne la clé, nous donne la réponse. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, en parlant des paroles de Dieu, la parole de la Bible, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Si tu veux être sûr du chemin dans lequel que tu marches, si tu veux être sûr que c'est le bon chemin, faut que tu t'assures que ce que tu es en train de réfléchir, de ce que tu es en train de parler, de ce que tu es en train d'essayer de pratiquer, ce soit des choses qui proviennent de la Bible, de la parole de Dieu, des paroles de Jésus-Christ. Parce que si tu es en train de suivre une religion qui parle de Jésus-Christ, mais cette religion-là, qui parle de Jésus-Christ, enseigne des vérités, ou bien des soi-disant vérités, en fin de compte, c'est pas des vérités, puis ça n'a même pas rapport à la parole de Dieu. Ces gens-là sont en train de prêcher leurs propres idées, leur propre religion, sont en train de t'égarer, puis en train de t'emmener dans un endroit qui n'est pas le chemin du Seigneur. Il y a un autre esprit qui est en train de te parler. Il y a un autre Jésus qui est annoncé dans cette religion-là, qui n'est pas basé sur la parole de Dieu. Puis que ça l'amène les gens à pas être en communion avec le vrai Jésus, qui fait que Jésus les connaît pas, puis que ces gens-là ne seront pas sauvés. Il y a comme une immense tromperie qui est en train de se faire présentement, qui est en train de mêler les gens, puis que les gens se pensent avec une assurance, avec une foi basée là-dessus, dans ce qu'ils entendent de ces faussetés-là, puis ils se pensent tous sauvés, puis qu'un jour, tout va leur être enlevé. La question qu'on doit se poser pour savoir si vraiment je suis sauvé, il faut faire le point. Le verset au début dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Les premiers points que je dois réfléchir, ai-je cru en Jésus-Christ pour être pardonné de mes péchés? Juste le point de base. Est-ce que je pense que je suis en train de gagner mon ciel par ma religion? Est-ce que je crois ou je suis en train de croire que mon mode de vie chrétien me sauve? Que ma religion me sauve? Que mes bonnes œuvres me sauvent? Que si je fais plus de bonnes œuvres que de mauvaises, que je suis en train de me sauver? Est-ce que je suis en train de croire dans ma religion que les sacrements de cette religion, les pratiques de cette religion vont me sauver? Est-ce que j'ai mis ma foi dans les hommes qui sont en avant en train de me prêcher, puis je me dis, ah, lui me dit que je suis sauvé, donc je dois l'être? La Bible est claire là-dessus. Dans Jean 14,6, Jésus l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a aucun homme sur la terre qui va nous amener au ciel. Que ce soit quelqu'un qui s'appelle le pape, que ce soit quelqu'un qui s'appelle évêque, archevêque, peu importe le titre, pasteur ou évangéliste, il n'y a aucun personnage sur la terre peut m'amener au ciel. Je n'ai pas à mettre ma foi dans les hommes. Un seul est le chemin pour aller au ciel. Jésus l'a dit lui-même. Je suis le chemin. C'est Jésus-Christ qui dit qu'il est chemin. Il est la vérité et la vie. Il ajoute que personne ne va pouvoir atteindre le Père sans passer par Jésus-Christ. Si tu veux vraiment être sûr d'être sauvé, il faut que tu aies décidé, tu as pris position, tu as reconnu que c'était impossible pour toi-même d'être sauvé, puis tu as décidé de croire à la révélation de Dieu qui nous dit que c'est Jésus-Christ seul qui nous sauve. C'est son sacrifice à la croix qui nous sauve. Si tu veux aller au Père, faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Faut que tu tournes vers lui pour le suivre et le servir. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. C'est pas ta religion, c'est pas le prédicateur. Il n'y a personne qui peut te sauver, sauf que Jésus lui-même. Deuxième point, il faut que je réalise, ai-je reçu l'Esprit de Jésus-Christ à ma conversion? Lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ, la Bible est claire, elle reçoit le Saint-Esprit. La personne doit demander que le Saint-Esprit vienne en elle pour la guider et la conduire. Puis lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, notre vie change. À partir du moment qu'on l'a reçu, notre vie commence à changer. Dans Actes 19:2, ça nous dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ai-je reçu l'Esprit de Jésus-Christ à ma conversion? C'est ça qui est la question. Il faut s'assurer que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, que nous recevions le Saint-Esprit. On s'en aperçoit assez vite, parce que le Saint-Esprit, il change notre manière de penser. À partir du moment qu'on le reçoit, on commence comme à penser différemment. On est fortement attaché à Jésus. On lâche pas de parler de Jésus. Là, on s'aperçoit des péchés qu'on n'aurait jamais pensé qu'on avait. Puis là, on s'aperçoit de ça. Puis là, on confesse ça à Dieu. Puis là, on est libéré de certaines choses. Dieu nous montre qu'il est là. Le Saint-Esprit, ensuite, il nous enseigne la parole de Dieu, nous révèle sa pensée, il nous parle, il nous montre le chemin. C'est ce que la Bible nous dit, que le Saint-Esprit va nous montrer le chemin, il va nous enseigner toutes choses, il va nous révéler la parole de Dieu. Puis t'as comme des preuves qui est là, parce que ta vie, elle change. Puis, si on a reçu le Saint-Esprit, nous ne sommes pas sauvés, même si on a dit... On le sait que Jésus est venu il y a 2000 ans, mais si on ne l'a pas reçu, on n'est pas sauvé. Tu peux pas dire que tu t'en vas au ciel et que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul il dit dans Romains 8-9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Pour que tu puisses dire que tu es vraiment sauvé, faut que tu aies reçu le Saint-Esprit. Tu peux pas dire que tu es sauvé si tu l'as pas reçu. Puis il est important de faire le point, est-ce que je suis vraiment sauvé? Pour le savoir, est-ce que j'ai vraiment passé par Jésus-Christ? Est-ce que j'ai mis ma confiance que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner mes péchés? Puis là, je le confesse en me repentant. Puis là, je demande à Dieu de me donner le Saint-Esprit. Puis là, ma vie commence à changer. Puis là, je commence à avoir l'assurance d'être sauvé. Quand on disait tantôt, examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes dans la foi, dans 2 Corinthiens 13:5, c'est ce que ça nous dit. Il dit, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est là qu'est la question. Est-ce qu'on réalise, qu'on reconnaît que Jésus est vraiment là? Puis la troisième point pour lequel on doit être sûr d'avoir vraiment fait le point, c'est de croire, de le confesser, puis là, d'être sûr qu'on a reçu le Saint-Esprit, puis me suis-je vraiment engagé à sa suite? Est-ce que je voulais vraiment être un chrétien? Combien est-ce qu'il y en a qu'il y a des gens qui ont accepté le cadeau à faire? Oui, ça, pour l'accepter le cadeau, les gens sont tout emballés, sont excités. Oui, j'accepte Jésus, je m'en vais au ciel. Mais ils n'ont pas l'intention de suivre Jésus. Ils n'ont pas l'intention de devenir son disciple, d'être un chrétien véritable. Leur vie, ils veulent la continuer comme qu'il y avait avant. Ou ils ont accepté, ils ont cru un bout, mais ils redeviennent comme avant, puis ils lâchent, ils abandonnent le Seigneur. Dans Matthieu 16, le verset 24, ça nous dit clairement, c'est Jésus qui est encore en train de parler. Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il faut suivre Jésus-Christ. Il faut prendre notre croix, il faut renoncer à nous-mêmes, il faut le suivre. Il faut devenir chrétien. C'est un mode de vie être chrétien. Il faut être un véritable chrétien, un suiveur du Christ, c'est ça que ça veut dire. Il faut s'engager à le suivre et à le servir, à mettre en pratique ses enseignements, à vouloir marcher. C'est là qu'on développe, qu'on démontre qu'on est vraiment chrétien, parce qu'on a un désir à vouloir suivre Jésus-Christ. Juste accepter le cadeau d'être pardonné, c'est pas suffisant. Faut que tu t'engages puis à démontrer ta foi par ton obéissance à ce qui est enseigné, à bâtir ta foi sur sa parole, sur les enseignements de la parole. C'est ce que je vous disais au début. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Où va-t-on trouver ce que Jésus nous enseigne, sinon dans la parole de Dieu? Il est important qu'on s'arrête, puis qu'on lise la parole de Dieu, qu'on la médite, puis qu'on la mette en pratique pour vraiment démontrer qu'on aime le Seigneur. On va faire une prière avec vous pour ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez avoir l'assurance d'être sauvé, mais pas une fausse assurance, la vraie assurance qui vient de la parole de Dieu, faut que tu passes par Jésus pour atteindre le Père, faut que tu reçoives l'Esprit Saint, faut que tu t'engages à suivre Jésus-Christ. Puis ça, on peut le faire, dans le démarrage de cette nouvelle vie-là peut se faire suite à la simple prière de repentance que je vais vous faire. Je vous encourage à faire cette prière avec moi, puis à continuer à la faire jour après jour, puis à vous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Faites cette prière après moi. Père, je confesse que je suis un pécheur, que je ne peux me sauver moi-même. Mais je crois que Jésus-Christ est venu, puis qu'il est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour pardonner mes péchés. Je l'accepte, ce sacrifice, pour qu'il devienne mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte et je m'engage à te suivre et à te servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je la donne. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu. Puis Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tu persévères dans la foi, dans son merveilleux message de grâce qui nous est accordé par Jésus-Christ. T'as accepté Jésus? Va dans une église évangélique pour entendre la parole de Dieu, pour confesser que tu crois, puis de pouvoir te joindre avec d'autres qui ont fait le même engagement de suivre Jésus-Christ. Puis va sur mon site publicationtraditionevangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont t'aider à t'accrocher à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.